Alors, bon matin, Nouvelle Vie Châteauguay, content vraiment d'être avec vous pour cette occasion spéciale, en fait, de la fête des Pères. Juste avant que vous ayez vos bangs, vous devez, par contre, m'écouter pour quelques instants. Pasteur Florian a pris quelques temps pour me présenter tantôt et mentionner que je suis aussi professeur à l'ITF. J'aimerais vous dire que Pasteur Florian était un excellent étudiant aussi. J'ai toujours une grande joie à corriger ses travaux. Toujours très consciencieux aussi. Et merci, Pasteur Florian et Julie, d'être ici à Châteauguay comme les pasteurs de cette congrégation Nouvelle Vie. Merci d'avoir accepté ce défi. Dernièrement, j'ai eu l'occasion, le privilège de pouvoir prendre un lunch avec Pasteur Florian pour tout ce qui concerne le soutien pastoral à Nouvelle Vie et à Châteauguay en particulier. Et j'ai vraiment entendu et vu le cœur de berger de cet homme qui est consciencieux et qui est préoccupé et soucieux de votre bien-être, de votre croissance spirituelle aussi, et de pouvoir aider au maximum ceux et celles qui vivent des moments parfois plus difficiles. Alors, n'hésitez pas à aller le voir si je te donne un petit peu plus de travail, Pasteur Florian. Mais toute l'équipe de soutien pastoral Nouvelle Vie est là pour vous. Nous travaillons en synergie, nous travaillons ensemble. Oui, Pasteur Florian, Julie font partie de l'équipe soutien pastoral Châteauguay, mais ils font partie aussi de la grande équipe de soutien pastoral Nouvelle Vie, les différents intervenants sur les différents sites, et nous sommes là pour vous également. Que vous viviez un moment de deuil, un moment de perte d'emploi, un moment plus dépressif, un moment plus difficile à traverser pour votre couple, pour vous-même, nous sommes là pour vous servir et vous encourager, vous accompagner aussi dans les moments de joie également, mais aussi dans les moments parfois qui nous font couler quelques larmes également. Alors, nous sommes là pour vous. Moi, c'est une joie, encore une fois, de me retrouver avec vous, de pouvoir être ici pour cette extraordinaire série dans laquelle nous sommes « Mieux vivre les secrets des proverbes ». Et dans le contexte de la fin des Pères, les proverbes ont quand même beaucoup à dire à ce sujet-là. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fin des Pères, bien, je veux profiter de cette occasion pour souligner, en fait, l'importance, la magnifique vidéo qu'on vient juste de voir, capsule un petit peu l'essentiel de mon message de ce matin, mais l'importance et l'impact que tous les papas ont sur leur famille. Et je vais apporter une parole d'encouragement, une parole d'édification pour élever le rôle de père. Il est possible que durant ce message, vous disiez, ben, mon papa n'était pas comme ça. Mon papa n'avait pas ces qualités dont vous parlez, ou peut-être je ne l'ai pas connu, ou peut-être vous, même les papas ici, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, mais je veux vraiment nous encourager et nous édifier vraiment ce rôle, cette fonction, cet appel de Dieu d'être un papa pour notre famille, pour nos enfants. Donc, écoutez bien les papas, tu es important pour ton enfant. Tu es important, très important pour ton ou tes enfants. Tu es essentiel pour ton enfant. Pour ton enfant, tu es souvent le centre de son monde, en fait. Et nous avons besoin, les papas, de nous voir tels que nos enfants nous voient et tels que Dieu nous voit surtout. Et comme on va le voir dans quelques instants, la Bible dit que dans le plan et dans l'intention de Dieu, dans la vision de Dieu, en fait, les papas sont la gloire et la fierté de leurs enfants. C'est comme ça que Dieu voit notre appel, que Dieu voit notre importance, en fait. Les papas sont la gloire et la fierté de leurs enfants. Les enfants sont fiers de leur papa. Et ils veulent être fiers de leur papa. Ils vous regardent souvent. J'ai 3 grands-enfants aujourd'hui, mais je me rappelle et j'espère qu'encore aujourd'hui, ils peuvent me regarder ainsi, mais de voir leurs yeux émerveillés face au petits exploits que je pouvais faire. Ils sont remplis d'attentes envers nous. Je me souviens d'une pièce de théâtre d'Arthur Miller, « La mort d'un commis voyageur ». Et il y avait une citation, en fait, une phrase qui était dite par un des fils du fameux commis voyageur. Et un des fils dit « Le problème avec papa, c'est qu'il n'a jamais su qui il était ». Et ce matin, je voudrais partiellement remédier à cette lacune de ne pas savoir qui nous sommes. Et avec vous, nous allons regarder ensemble ce que nous sommes partiellement. Premièrement, nous allons voir que tu es un papa avec tout ce que ce titre signifie dans le plan de Dieu. Deuxièmement, nous allons voir que tu es un modèle à imiter, même dans tes imperfections. Et troisièmement, que tu es un communicateur d'un grand impact dans la vie de tes enfants. Vous êtes avec moi ce matin? On fait ce parcours ensemble. Tu es un papa. Le livre des Proverbes au chapitre 17, le verset 6, écoutez bien. Les enfants des enfants sont la couronne des aînés. En fait, les petits-enfants, ce que ce texte nous dit, c'est que les petits-enfants font la joie des grands-parents. Hein? C'est notre joie. Je suis grand-parent cette fois et c'est une grande joie de les voir et d'interagir avec eux. Mais le texte de Proverbes 17:6 continue, il dit « Et les papas sont la gloire de leurs enfants. » Sont la gloire, la fierté de leurs enfants. Et non seulement tu es un papa, mais en plus, tu es son seul papa. De mon côté, je considère ce titre de papa, et pour moi c'est un titre, et je le considère avec une très grande et très haute estime. Pour moi, c'est un des titres les plus chaleureux, les plus affectueux, les plus importants, qui est d'une grande proximité, qui est empreint d'amour, qui est empreint d'affection également. En fait, je n'ai que 3 personnes sur toute la face de la planète Terre, il n'y a que 3 personnes qui ont légitimement, biologiquement et affectueusement le droit et le privilège de m'appeler papa. Juste 3 personnes sur toute la planète, mes 3 enfants, Francis, Maxime et Laura. Et je peux vous dire que je tiens à ce titre-là. Parfois, ils m'appellent Sylvain. Papa. Papa Sylvain. Hein? Pour moi, c'est un titre qui en dit long sur mon identité face à eux, sur mon rôle envers eux et sur ma relation privilégiée avec eux. Je suis leur papa et j'en suis très fier. Je suis un papa qui est heureux, qui est choyé par mes 3 enfants. Je suis très fier d'eux et j'aime qu'ils m'appellent papa, même encore lorsqu'ils ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui. J'aime qu'ils m'appellent papa. Oui, parfois, je le sais, parfois c'est pa. On dirait qu'il y a un A qui a disparu en cours de route. Parfois, c'est « dad », mais je suis leur papa. Très souvent, ils l'ont prononcé, ils le prononcent encore avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'amour, alors qu'on se donne un bon câlin. D'autres fois, je l'ai entendu avec une certaine urgence aussi, ce nom-là, ce titre-là. D'autres fois, ils l'ont dit avec supplication, « papa », en voulant me supplier. D'autres fois, ils l'ont dit avec une certaine exaspération. « Ah, oh, come on, papa! » Et d'autres fois, ils l'ont fait avec résignation et avec soumission. « OK, papa! » Mais je sais que je reste toujours et encore leur seul et unique papa. Tu es le papa de tes enfants. Et c'est précieux, un papa. Et cette journée annuelle que nous prenons dans l'année pour souligner ce rôle-là, en fait, oui, on veut célébrer les papas, mais surtout, nous voulons célébrer ce rôle tellement important d'être un papa, d'être un père. C'est essentiel pour la croissance et l'épanouissement de nos enfants. C'est dans le plan parfait de Dieu. Vous avez tous déjà entendu parler de Salomon, le roi Salomon, le grand roi d'Israël, le fils du roi David. Et souvent, nous avons été impressionnés, nous sommes impressionnés avec raison, avec toute la sagesse que Salomon, dans le livre des Proverbes, en fait, la plupart de ses proverbes proviennent de l'écriture et de la bouche de ce roi-là qui a demandé à Dieu pour recevoir de la sagesse et de l'intelligence. Et on sait comment Dieu l'a exaucé au-delà de ses propres attentes. La sagesse de Salomon est devenue même proverbiale. Et on se dit, wow, J'aimerais tellement que mes enfants demandent la sagesse et l'intelligence avant qu'ils deviennent adolescents. Hein, on aimerait tellement, Seigneur, s'ils peuvent demander ça. Mais d'où est-ce que vous pensez que Salomon avait pris cette idée-là lorsque Dieu lui a dit en songe, « Demande-moi ce que tu veux, n'importe quoi, demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. » Et d'où est-ce qu'il a pris cette idée de demander de la sagesse et de l'intelligence? En fait, il y a peu de gens qui savent et qui réalisent que ça vient de son père David. Parce qu'un jour, le roi David, le papa de Salomon, il a pris à part et dans 1 Chronique, chapitre 22, lui a dit, « Maintenant, mon fils, alors que David était sur son déclin et il approchait du jour de son départ, il dit, « Maintenant, mon fils, que le Seigneur soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de Dieu. Veuille seulement le Seigneur t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. Alors tu prospéreras, fortifie-toi et prends courage. » Alors, avant même que David ne décède, avant même que Salomon demande à Dieu de la sagesse et de l'intelligence, déjà son papa lui avait dit, ces deux choses-là sont essentielles et sont tellement importantes pour ta vie, afin que tu puisses grandir, afin que tu puisses prospérer et avoir tout le reste dans ta vie. Donc, l'idée de demander de la sagesse et de l'intelligence à Dieu, ça venait de son papa, David, qui a influencé et dirigé le cours de la vie de son fils et son développement. Papa, c'est celui que les enfants regardent comme celui qui peut relever tous les défis, hein, qui peut résoudre tous les problèmes de la famille. Et nous, les papas, nous sommes d'une certaine façon bâtis pour ce genre de pression et pour apporter de la sécurité et de la protection à nos familles. Alors, tu es un papa et c'est un grand honneur et une grande responsabilité aussi. Je vous lis deux citations de jeunes papas qui ont écrit ces quelques lignes ici. Un jeune papa écrit « Devenir père, c'est un énorme sentiment de fierté, mais c'est aussi un sens accru de responsabilité. Certaines préoccupations ont totalement disparu de ma vie pour faire place à de nouvelles. C'est aussi de délaisser des ambitions personnelles pour d'autres. » Plus familial. Il dit, c'est la mission la plus importante de ma vie. Un autre jeune papa écrit, être un papa m'a rendu plus responsable en m'occupant de mes responsabilités. Je trouve du plaisir et du bonheur à voir mes enfants s'amuser et être heureux. Ce qui m'a le plus marqué en tant que papa, c'est à quel point je suis fier de mes enfants. Le moindre petit accomplissement, le moindre petit dessin. Hein? Vous avez déjà vu le premier dessin de votre enfant? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est toi, papa! OK! Hein? Mais on est fiers! Et wow! On le met sur le frigo quelque temps. Hein? On est fiers de ses premiers dessins, de ses moindres apprentissages. Il nous rend tellement fiers d'eux. Quand nous sommes papa, quand nous sommes engagés envers nos enfants, quand nous les enseignons, quand nous les serrons dans nos bras, quand on joue avec eux à plat ventre sur le sol, quand on leur accorde notre soutien, nos encouragements, nos enfants reçoivent le message qu'ils sont importants pour nous. Ils sont importants pour nous. Et quand les enfants se ressentent qu'ils sont importants pour leur papa, leur monde semble plus rassurant. Ils se sentent en sécurité, ils se sentent protégés. Et c'est pour ça que les enfants veulent avoir papa dans leur vie. Même si papa n'est pas parfait, ils le savent. Ils ne sont pas idiots. Ils savent qu'on n'est pas parfait. Mais ils veulent nous avoir dans leur vie parce qu'ils ont besoin de toi. Parce que tu es leur seul et unique papa. Je ne sais pas pour vous, mes pères, mais il m'est arrivé souvent d'avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être adéquat en tant que papa, de manquer mon coup, de ne pas être compétent, de me sentir inadéquat dans ce rôle tellement important. Et je sais que je n'ai pas été un père parfait, en tout cas pas tout le temps. Des fois, pas si pire, mais pas tout le temps. Mais voyez-vous, j'ai appris aussi à travers les années, maintenant qu'ils sont grands, que pour remplir ce rôle-là, pour avoir l'affection de nos enfants, pour réussir comme papa, on n'a pas besoin d'être parfait. Du moins, pas tout le temps. C'est correct. C'est correct. Les enfants savent pardonner leur papa. Les enfants, en fait, ils veulent pardonner leur papa pour tous les moments où ce n'était pas génial. Les enfants pardonnent leur papa parce que tu es leur papa. Et pour eux, c'est important. Alors, c'est ce qui compte pour eux. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas s'améliorer. Ça ne signifie pas qu'on peut faire n'importe comment, puis n'importe quoi, puis c'est pas grave. Les enfants sont résilients, ils vont me pardonner. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas s'améliorer ou faire mieux. Ça veut dire de ne pas abdiquer. Ça veut dire de ne pas se mettre en retrait de leur vie, même si nous ne sommes pas parfaits, de ne pas baisser les bras pendant leur adolescence, de ne pas baisser les bras quand la tension est plus palpable, parce que tu es leur papa et ils ont besoin de toi, ils ont besoin de leur papa, même si c'est pas toujours facile. Et je l'ai découvert avec les années aussi. Il n'y a pas de recette parfaite pour devenir un papa. Papa 101, ce n'est pas un cours qui se donne au secondaire ou au cégep ou même à l'université. La paternité, ça ne se pratique pas sans difficulté, ça ne se pratique pas sans erreur, sans manquement, sans faire fausse route à l'occasion. La nécessité de rectifier le tir fait partie de la game, fait partie du jeu, fait partie de la vie aussi. Mais comme quelqu'un le disait, un papa vaut plus qu'une centaine de profs à l'école. Un papa, c'est plus important. Il y a un proverbe cambodgien qui dit « Un enfant sans papa, c'est comme une maison sans toiture. » Et tous les couvreurs disent « Il te manque une couverture de protection contre les intempéries de la vie. » Parce qu'un papa a le potentiel de faire toute la différence. Et merci Seigneur pour tous les hommes qui s'improvisent ou qui entrent dans la vie de quelqu'un peut-être que, dont le papa n'est pas là ou que le papa n'est pas à la hauteur. Un professeur, oui, un coach, un voisin, comme il a été mentionné dans la vidéo. Il y a plein d'hommes qui peuvent, ou qui n'ont peut-être même pas d'enfants biologiquement, mais qui peuvent agir et intervenir comme papa dans la vie d'une personne. Parce qu'un papa, ça a le potentiel de faire toute la différence dans la vie d'un enfant et pour toute sa vie aussi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? De plus en plus de papas aujourd'hui prennent conscience et font tout ce qu'il faut pour y arriver. Je bénis Dieu pour cette génération de jeunes papas que je regarde aller autour de moi, des jeunes papas, mes propres fils également, mais plein de jeunes papas dans les églises, même dans la société, il y a de plus en plus de jeunes hommes qui deviennent papas et qui prennent à cœur ce rôle-là. Il y a un sondage récemment dont je prenais connaissance qui révélait que 77%, donc c'est plus que trois quarts des hommes qui affirment qu'être un bon papa est extrêmement important pour eux, même plus que leur carrière. Plus de trois quarts, même pas la moitié des hommes vont dire que leur carrière est extrêmement importante. Donc, de plus en plus, il y a cette prise de conscience et je crois que c'est une bonne chose qui prend place dans cette nouvelle génération de papas aujourd'hui. Alors, jouez avec votre enfant, priez avec elle, faites des choses avec lui. Impliquez-vous dans ses activités et impliquez-les dans vos propres activités. Serrez-les dans vos bras parce que tu es son papa. Amen. Deuxièmement, tu as un modèle à imiter. Qu'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non, les papas sont des modèles. Nous sommes tous des modèles à imiter pour quelqu'un d'autre, mais surtout pour nos enfants. Les enfants en général sont des, ou plutôt les adultes en général, sont des modèles. La plupart des enfants regardent les adultes, leurs professeurs, un coach, vont regarder les adultes comme des modèles. Mais surtout, ils vont regarder vers leurs parents. Et dès le moment où je suis devenu un papa en 1981, j'avais 23 ans à l'époque, je ne le savais pas nécessairement à l'époque, mais je suis devenu un modèle à imiter. Pour mon enfant. Il allait me regarder, marcher, agir, réagir, me lever, m'asseoir, bouger, courir, jouer, travailler. Il allait me voir faire ces choses et il allait vouloir m'imiter parce que j'étais devenu un modèle à imiter pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Dans les bonnes façons d'interagir, mais aussi dans les mauvaises façons d'interagir. La plupart des choses qu'on fait aujourd'hui, en tant qu'adulte, réalisez-vous que nous les avons apprises par l'exemple? Nous avons regardé, nous avons vu quelqu'un d'autre faire d'une certaine façon et on continue à apprendre de cette façon-là. Même Jésus enseignait ses disciples par l'exemple. Lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, il leur dit, je vous ai fait ça afin que vous suiviez un modèle, que vous voyez un exemple. Et il priait puis il leur montrait comment prier. Il apprenait à ses disciples par l'exemple, non seulement pour eux, mais encore pour nous tous aujourd'hui. C'est comme ça qu'on apprend à suivre Jésus et à servir Dieu. Pour les enfants, l'exemple est le principal, sinon peut-être même leur unique moyen d'apprendre, d'apprentissage. C'est le plus efficace en tout cas. Ils regardent et ils observent et veulent faire la même chose que leurs parents parce que pour eux, si papa le fait, c'est correct. C'est la bonne chose à faire. Ils n'ont pas encore le discernement, surtout lorsqu'ils sont plus jeunes, le discernement de savoir faire la distinction en grandissant. Ils commencent à faire une sélection de ce qui doit être reproduit. Mais lorsqu'ils sont encore tout petits, ils ont une complète confiance que ce que nous faisons, c'est l'exemple et c'est le modèle à imiter. Peu importe si ce qu'on fait est bon, mauvais, bien ou mal, pour les jeunes enfants, si papa le fait, c'est la bonne chose à faire parce que nos enfants nous observent tout le temps. Nos enfants nous regardent tout le temps. Et je vais vous donner deux choses, deux modèles ou deux exemples que nous devons présenter à nos enfants en tant que papa. Et pour moi, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une question de savoir comment bricoler, comment changer l'huile de votre voiture, comment jardiner ou comment faire tel ou tel travail. Non, deux choses super importantes pour moi ce matin que je veux partager avec vous, à reproduire et à leur montrer comment le faire. Aimez Dieu et aimez leur maman. Aimez Dieu et aimez votre épouse. Je dois démontrer à mes enfants comment aimer Dieu, ce que ça signifie d'aimer Dieu. Notre plus important et notre plus grand rôle en tant que papa modèle à imiter, c'est celui de leur montrer concrètement pourquoi nous aimons Dieu et comment nous aimons et servons Dieu. C'est de leur montrer, de leur démontrer pourquoi, comment mettre en pratique en fait le plus grand et le plus important des commandements de Dieu, qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute notre force. Et ça, c'est pour moi, c'est l'héritage le plus important que nous pouvons leur communiquer et leur laisser. Si vous êtes d'accord, dites amen. D'aimer Dieu, d'aimer Dieu. Le livre des Proverbes, en fait, déclare avec une très grande clarté que le commencement de la sagesse, le commencement de toute chose dans la vie, en fait, le commencement de tout mieux vivre dans cette vie, dans cette société, c'est la crainte de Dieu. C'est la chose la plus importante, c'est la plus fondamentale, c'est le départ, c'est de reconnaître Dieu comme Sauveur et Seigneur. C'est de vivre avec la conscience de sa présence, la conscience de sa puissance dans ma vie. C'est le fondement de toute vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est de reconnaître et d'aimer Dieu. Et en tant que papa modèle à imiter, donnons-leur l'exemple d'une vie vécue dans la crainte de Dieu, dans le respect de sa parole, dans sa sainteté. Qu'on puisse montrer à nos enfants ce que ça signifie de pratiquer, de vivre par la foi, dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, de vivre dans l'amour de Dieu, dans l'amour pour Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Faisons en sorte ensemble, les papas, qu'ils nous voient lire la Bible, qu'ils nous entendent et même nous voient prier, de chanter et louer Dieu, non seulement à l'église, mais dans votre voiture ou en train de travailler, de vous préparer puis d'aller à l'église sans que c'est maman qui tire. Non, non, c'est papa, on s'en va à l'église, on se prépare ensemble parce que c'est important pour vous et pour nous. Surtout qu'ils nous voient aussi être honnêtes dans nos affaires, qu'ils nous voient et nous entendent lorsqu'on parle aux autres, mais aussi qu'ils nous voient et nous entendent lorsqu'on parle des autres. Autour de la table, quand on parle d'un autre, qu'est-ce qu'ils entendent? Lorsqu'on parle du gouvernement, lorsqu'on parle de ce qui se passe dans la société, lorsqu'on commence à parler du voisin, de la voisine, lorsqu'on est en train de parler de... Ils nous voient, ils nous entendent et ils observent. Qu'ils nous voient être généreux, généreux de notre temps, généreux de notre argent, de nos biens, alors que nous partageons selon les besoins du moment. N'ayons pas peur qu'ils nous entendent aussi demander pardon. On a parfois la fausse impression, fausse croyance que « Ah, ben si je leur demande, si je m'excuse, si je demande pardon, je vais perdre mon autorité. » Du tout! Qu'ils nous entendent demander pardon, s'excuser lorsqu'on a fait une faute ou même un péché, montre-leur l'exemple de la repentance en action, de la repentance en pratique, si nous voulons qu'ils puissent le faire aussi. Du pardon en action, lorsque vraiment on pardonne. J'ai pardonné. Voici ce qu'on fait, mon fils, ma fille, lorsqu'on pardonne. Invitons-les à se joindre à nous dans un 30 secondes de prière pour prier pour quelque chose qui peut-être les préoccupe. Qu'on puisse les intégrer dans le récit d'une histoire de la Bible jouée, interprétée par les membres de la famille, par cette troupe de théâtre extraordinaire. J'ai encore des souvenirs avec mes enfants, avec mon épouse et les deux garçons au début, parce que la fille est arrivée un peu plus tard, puis on faisait des pièces de théâtre de la Bible. On lisait et on faisait. Alors, Jonas, il s'est littéralement fait manger par une baleine. Là, tu sais, on a vécu ces moments-là. On a ressuscité des morts aussi. On a guéri des lépreux. On a fait plein de choses pour qu'ils voient, qu'ils entendent et qu'ils participent. Et ils sont devenus des personnages de la Bible. Impliquons-les dans un chant qui élève le nom de Jésus. Parlons-leur de Jésus avec amour. Montrons-leur l'importance de la générosité. Soyons des modèles à imiter dans notre amour pour et envers Dieu. Mais deuxième chose, on doit leur montrer comment aimer sa femme. Comment aimer leur maman? Comment traiter les femmes en général, mais aussi comment traiter leur maman, notre épouse? Et je crois profondément que c'est le deuxième plus gros, beau et grand cadeau et héritage que nous pouvons léguer à nos enfants. C'est le modèle d'un homme qui aime sa femme, d'un papa qui aime leur maman, d'un mari qui aime son épouse. Amen. Parce que pour nos garçons, et en fait, il s'agit de leur montrer comment aimer et traiter sa femme avec respect, avec affection, avec tendresse, avec amour, avec délicatesse aussi. Mais pour les filles, il s'agit de leur montrer quel genre et quel type de gars elles doivent rechercher et ne jamais faire de compromis sur leurs critères. Parce qu'en aimant notre épouse comme Dieu veut qu'on l'aime, on est en train de créer en eux, en elle et en lui, un chemin qui a le potentiel d'avoir un impact majeur pour tous les couples que nos enfants vont former plus tard. Amen. Le pouvoir de l'influence, le pouvoir de l'exemple. Il faut que nos enfants voient ce que ça signifie d'aimer sa femme. L'entraide, la collaboration, la tendresse, le désir d'être avec elle, sortir avec elle pour être en amoureux. Nous avons le privilège, mon épouse et moi, de pouvoir garder nos petits-enfants qui ont entre 1 an et 4 ans, ils sont 3, et de les garder ensemble pendant que papa et maman sont sortis au restaurant en amoureux. Ils leur disent, papa, pourquoi c'est papy et mamie qui vont nous garder? Parce que papa et maman sortent en amoureux ce soir. Et papy et mamie vont venir vous garder. Ou même parfois pour un week-end complet, ils sont juste partis à l'extérieur. Il faut qu'ils le voient. Amen. La serrer dans nos bras, lui demander pardon si on l'a offensé devant les enfants, lui apporter des fleurs, un cadeau, l'honorer, parler d'elle avec compliment, en la relevant, en la protégeant, appuyer-la dans ses décisions aussi devant les enfants, qu'on soit entièrement fidèle envers elle, soyons polis, soyons galants encore en 2022 et surtout en 2022. Qu'on soit encore poli devant elle et envers elle, et galant également. Et en étant ce genre de modèle à imiter, je crois que nous créons dans nos enfants de la sécurité, de l'assurance, un chemin à suivre, des points de repère, de la paix, de la tranquillité dans une société où il y a de plus en plus de familles qui explosent, qui éclatent. Et on peut faire une différence encore aujourd'hui. Vous êtes toujours là avec moi? Troisième point, papa, non seulement tu es un papa, avec tout ce que ce titre signifie. Non seulement tu es un modèle à imiter par ton exemple, mais tu es aussi un communicateur de grand impact. Tu es le communicateur, en fait, qui a le plus d'impact dans leur vie, et ça, c'est pour toute la vie. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, je vous lis ces deux textes, « Vous, les papas, ne mettez pas vos enfants en colère pour rien en les frustrant inutilement, mais plutôt communiquez-leur comment vivre mieux au fur et à mesure qu'ils grandissent. Instruisez-les dans le chemin que Dieu veut qu'ils empruntent. » Il dit aux Thessaloniciens, « Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un papa est pour ses enfants, vous encourageant, vous réconfortant, insistant pour que vous viviez d'une manière qui glorifie Dieu, qui a mis un grand appel sur vos vies. » En tant que papa, les paroles et même nos silences ont un énorme impact sur la famille. Peut-être qu'on ne le réalise pas toujours, mais ta femme et tes enfants le réalisent toujours. Ce que je dis, ce que je ne dis pas, la façon que je le dis a une grande importance, un grand impact, une grande valeur pour nos enfants. Pour vos enfants, vous n'êtes jamais juste fâché ou juste frustré. Vous n'êtes jamais juste impatient. Vous n'êtes jamais juste triste. Vous êtes leur papa. Et chaque mot qu'on prononce a le pouvoir de blesser ou de guérir, d'écraser ou d'inspirer au-delà de ce que nous pouvons même réaliser. Le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1 et 2, dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite et provoque de la colère. La langue des sages rend la connaissance aimable, mais la bouche des insensés répand de la folie. » Proverbe dit encore « Celui qui veille sur sa bouche, sur sa langue, préserve son âme et l'âme des autres, des angoisses, de l'insécurité. » Et c'est ce que font tous les grands communicateurs. Ils ne perdent pas la tête devant des situations de crise. Garder sa tête, ça veut dire que je ne dis pas toutes les choses peut-être qui me passent par la tête. Je ne dis pas tout ce qui peut passer dans ma tête, dans mes pensées. Je ne répands pas mon cœur. Et je ne dis pas tout ce qui peut passer à l'intérieur de moi pour ensuite le regretter par la suite. Alors, papa, dès aujourd'hui, je nous parle ce matin. Nous avons le choix d'être le papa que nous voulons être. Soyons le papa qui est fort, compréhensif, qui sait communiquer des paroles sages et avoir un cœur qui est doux pour changer le cours de la vie de nos enfants. Votre enfant ou vos enfants, nos enfants ont besoin de savoir ce qu'on pense d'eux. Ils ont besoin d'être valorisés. Pour un enfant, c'est important. Qu'est-ce que mon père pense de moi? Qu'est-ce qu'il croit que j'ai? Qu'est-ce qu'il croit que je peux faire? Comment est-ce qu'il me voit? Comment est-ce qu'il me perçoit? Et c'est ta voix plus que la voix de n'importe qui d'autre qui est la voix la plus puissante dans le monde pour tes enfants. Il n'y a personne d'autre, en fait, qui aura autant d'impact que toi. Et quand je pense aux paroles de mon père, celles qu'il a dites, celles que j'aurais voulu qu'il me dise aussi, et quand je vois dans quelle saison de ma vie de famille je suis rendu, je crois profondément que peu importe l'âge qu'on est rendu, peu importe l'âge de nos enfants, qu'ils aient 40 ans, 45 ans ou qu'ils aient 5 ans, que peu importe où ils sont rendus, il y a encore ce profond désir en nous d'entendre des paroles valorisantes et encourageantes et remplies de confiance de la part de papa. Peu importe où vous êtes rendu, même dans votre parcours à vous, si vous avez encore le privilège d'avoir votre papa, il y a quelque part, j'aimerais entendre quelque chose de... Ça fait du bien quand notre papa nous dit « je t'aime » et quand nous le disons à nos enfants. Même si vous ne l'avez pas fait souvent ou même peut-être pas du tout, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Vos enfants veulent et doivent savoir que vous les aimez réellement, que vous avez du plaisir à être avec eux, que vous les respectez. Même Jésus a entendu son Père lui dire devant tout le monde, avec une voix extraordinaire, Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Et le Père l'a dit devant tout le monde a entendu cette voix. Et Jésus a entendu cette voix. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Valorisation, confirmation de ce lien de proximité. Considérez vos paroles comme un projet. Vous dites, « Moi, je n'ai pas toujours dit les bonnes choses. J'ai de la misère à lui dire que je l'aime. » Considérez vos paroles comme un projet. Votre langue, c'est un outil puissant. C'est un muscle, mais comme tous les autres muscles, on a besoin de l'exercer. Besoin d'entraînement. Et peut-être juste l'entraîner et s'exercer à dire des nouvelles paroles plus douces, plus calmes, plus édifiantes, plus inspirantes, plus encourageantes. Vous allez être étonné du changement que ça va provoquer en vous, mais du changement que ça va provoquer chez vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont aujourd'hui, et de toute l'influence positive que vous allez avoir sur vos proches, sur votre famille. En fait, je crois et je sais par expérience aussi que nous pouvons vaincre et surmonter plusieurs attitudes, plusieurs émotions et apprécier davantage la vie simplement en changeant notre façon de parler. Je le sais par expérience. Alors, je vous propose un exercice, messieurs, aujourd'hui, et mesdames, nous pouvons tous saisir cette opportunité d'exercer notre langue. Tentez, pour les deux prochaines semaines, à chaque jour, dites un compliment sincère et vrai à chacun de vos enfants. Pour les deux prochaines semaines, à chaque jour, un texto, un messenger, au téléphone, mais idéalement, là, face à face. Dans les yeux. Je t'aime. Je suis fier de toi. Bravo pour cet accomplissement. Bravo pour ta graduation. Bravo pour l'emploi que tu as décroché. Bravo pour ce super beau dessin. Bravo. Il y a juste trois lignes. Bravo de l'avoir fait. C'est qui ça? Ben, c'est nous autres. Trois lignes. C'est nous. Dites un compliment. J'aime comment t'es habillé. J'aime comment t'es peigné. Peu importe. Trouvez quelque chose à dire qui soit sincère, qui soit vrai. Mais disons pour les deux prochaines semaines, à chaque jour, un compliment à chacun d'entre vous. Je vous garantis, vous allez être surpris, vous allez être étonnés par les résultats. Des meilleures relations, un meilleur sentiment par rapport à la vie, et à vous-même, simplement en changeant et en étant intentionnel à ajouter quelque chose de plus dans notre façon de parler, nous allons changer le cours de leur vie. C'est biblique et c'est divin également. Jacques, chapitre 3, verset 6, dit « La langue, c'est comme un feu. Elle est placée parmi nos membres et par elle, on peut changer le cours d'une vie. » Wow! C'est puissant ce que nous disons. Je vais demander aux musiciens de s'approcher à nouveau. Un dernier chant en conclusion. Mon père est décédé il y a environ une treizaine d'années maintenant. Il avait 83 ans. Et je me souviens de beaucoup de choses par rapport à mon enfance et mon adolescence avec lui. Mais beaucoup des bons souvenirs que je garde de lui sont des moments où il jouait avec moi. Probablement qu'il y a bien d'autres pères en âge, qui ont avancé, ce sont des moments. Des moments. Pas des moments où il me reprenait ou m'enseignait ce qu'il a fait aussi, mais des moments où il jouait avec moi. C'est drôle comment ces moments-là ont marqué et m'ont marqué pour aussi longtemps, encore aujourd'hui. C'est lui qui m'a appris à nager, qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a appris à patiner. C'est lui qui se tiraillait avec moi et je le battais. Il se laissait battre ou jouer aux cartes, laver la voiture avec lui. Ces moments ne sont peut-être pas aussi nombreux que je pense, peut-être je l'ai, mais ils m'ont marqué. Parce que c'était des moments privilégiés où je me sentais important. Son exemple de sobriété, son exemple de fidélité envers ma mère, sa détermination à pourvoir aux besoins de sa famille et de venir travailler tôt le matin, d'arriver tard, son respect des gens démunis, sa foi en Dieu ont eu un impact certain sur ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que j'ai appris de son exemple. Je ne connais pas votre histoire de vie de famille. Je ne sais pas quel genre de papa vous avez eu. Mais je sais qu'on peut tous écrire l'histoire de nos enfants ici et à partir de maintenant. Amen. Le bonheur de votre enfant peut être le résultat d'un mot, d'un geste, d'un sourire, d'un moment de jeu, d'un temps passé ensemble. Et alors qu'on va chanter et rechanter ce chant « Amour extravagant », rappelons-nous, papa, tu es son papa. Je suis son papa. Je suis son modèle à imiter, dans les bons et dans les mauvais moments aussi. Dans les bons coups, comme dans ce cas, c'est pas génial. Dans mes moments de repentance, dans mes moments d'excuses, de demander des pardons, dans les moments de pardonner à mon enfant aussi. Mais je suis aussi son plus grand et son plus important communicateur. Je veux communiquer des paroles de valorisation, des paroles d'encouragement, de compliment. Et avec ce sens de responsabilité et aussi d'humilité devant Dieu, est-ce qu'on pourrait tous se lever, s'il vous plaît, en terminant cette réunion? Et je veux inviter tous les papas, peu importe votre âge, peu importe l'âge de vos enfants, si vous êtes confortable de juste lever nos mains devant Dieu, de venir devant le Seigneur ce matin, devant notre Père céleste, pour le remercier de ce grand privilège d'être un papa, mais aussi pour lui demander son aide, son soutien. Moi, j'ai besoin de sa force, j'ai besoin de son courage, j'ai besoin qu'il me donne un cœur pour être le papa qu'il veut que je sois. Pas parfait, loin de là. Encore bien des croûtes à manger, encore bien des leçons à apprendre. Mais d'être capable d'avoir cette relation, cet impact dans la vie de mes enfants qui en auront à leur tour dans la vie de leurs enfants, afin que je puisse être un papa, un modèle et un grand communicateur envers nos enfants. Seigneur, si tu peux nous conduire dans ce chant, amour extravagant, amour extraordinaire de notre Dieu, notre Père.